toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Isabelle Chenu.
Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Le poète Charles Baudelaire décrivait ainsi l'alchimie poétique qui consiste à sublimer la laideur ou l'horreur. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
On pourrait aussi convoquer une autre figure poétique pour définir le film dont nous allons longuement parler ce samedi, l'élégie, ce chant du deuil, hommage aux disparus. Mais ici, rien de plaintif ni de pesant. Pour la France, c'est le titre de ce film, célèbre au contraire la vie, la vitalité, les promesses d'un jeune homme brillant né en Algérie, venu en France avec sa mère et son frère pour fuir la violence de la décennie noire. Il voulait servir la France dans l'armée et avait intégré la prestigieuse école d'officiers de Saint-Cyr Coëtquidan, mais il est mort tragiquement pendant un rituel de bizutage. Bonjour Rachid Ami.
Bonjour.
Ce jeune homme, c'était votre frère, Jalal, mort dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012. Et cet événement tragique, vous l'avez sublimé dans le film Pour la France.
Merci.
Que ton courage soit notre loi, malgré le poids de vos armes.
Bonjour Madame Saïdi, toutes mes condoléances.
Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils.
Souhaitez-vous une cérémonie militaire ?
Oui. C'est important pour lui.
Faites le nécessaire.
Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire.
Alors un extrait de la bande-annonce de Pour la France, Rachid Ami. Alors tout d'abord, Rachid, on le disait, cette histoire, c'est aussi la vôtre, puisque c'est ce qui est arrivé à votre frère dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012. À quel moment est-ce que vous avez senti la nécessité de porter à l'écran donc cette histoire qui vous touche au plus profond ?
C'était étrange parce que c'est un chemin très bizarre qui s'est passé sur cette histoire. Elle est bizarrement née en 2010, quand je suis allé retrouver Jalal à Taipei, où il était étudiant à Taïda. Et donc, il est allé apprendre le mandarin et je suis allé le rejoindre. Et je pense que ça a été un moment très particulier où on s'est un petit peu disputé, bien disputé, retrouver, et quelque part, c'est le moment où on est devenu frère. Et à mon retour à Paris, j'ai dit à Jalal, un jour, je vais faire un film sur ce qu'on a vécu à Taïwan, parce que je trouve ça extrêmement romanesque. J'avais été frappé par plein de choses quand j'étais là-bas. J'avais l'impression de découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas. Et en 2012, quand il a perdu la vie, j'ai mis un peu ce projet de côté. Et un ami producteur à moi, en 2013, me dit « Mais Rachid, pourquoi tu le fais pas ?» Je dis « Ah, je sais pas si j'ai vraiment envie de montrer quoi que ce soit, de tout ça. » Et il me pousse à faire un court-métrage, en fait, que je tourne à Taipei en 2015, qui s'appelle « Les Réminiscences ». Et quand on voit les images finales, le premier montage, on se dit « Mais il faut qu'on en fasse un film. » Donc on est en 2015, je prépare la mélodie. Donc je
votre
dis,
premier long-métrage.
Voilà, mon premier long-métrage. Donc je finis la mélodie et je m'attelle à ce film que vous découvrez avec une volonté de faire un film très romanesque, un film d'aventure, qui a trois mouvements, trois beaux mouvements dramaturgiques, une genèse biblique avec la forme d'un conte en Algérie, dans l'Algérie des années 90, et du fils, un Antigone moderne et contemporain en France, et un film d'aventure à Taïwan. Et donc là, la quête de justesse dramaturgique avait commencé.
Pour la France, Rachid Ami, c'est l'histoire, une histoire intime, vous venez de le dire, l'histoire de deux frères, Aïssa et Ismaël, l'histoire d'une famille, mais c'est aussi une histoire politique, puisque la mort de ce jeune homme dans ce rituel de bizutage va nous amener beaucoup plus loin et pose, j'ai l'impression, vous poser la question de comment devenir français quand on est né ailleurs.
Mais c'est une question profonde, qui est très intime en même temps, parce qu'on aura tous une définition différente de ça. Quand on est né en Algérie, on vit dans une grande contradiction parce que mes parents parlaient français. Moi, j'ai appris à parler français comme étant ma langue maternelle. Et quelque part, on n'était pas français parce qu'on était algérien. Et ma mère vous dira qu'elle est née française. Donc, si vous voulez, c'est un problème insoluble. Et donc, la question d'être français, en fait, c'est là où elle devient intime parce que c'est une décision presque. C'est pas une question que de passeport, c'est une question de décision intime. Je pense que Jalal était profondément français. Et une fois qu'il avait cet uniforme de Saint-Cyr, il disait « Plus personne ne pourra me dire que je ne suis pas assez français ». Et moi, je me suis toujours considéré français en étant un troubadour, en faisant des films. Donc c'est ma définition étant différente, et moi je dis juste « Je suis français, c'est comme ça voilà, ». Ce n'est pas un truc qui se discute. Donc voilà, je pense que cette définition est très difficile à trouver et qu'elle est intime à chacun.
Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire ?
Mon fils était fier d'être à Saint-Cyr. C'était son rêve.
Et qu'a-t-il dit du bahutage ?
Vous savez, les transmissions de tradition, c'est des chants autour du tombeau de Napoléon. Au Verdun, sur les traces des poilus. Mais ce qu'ils appellent bahutage et les humiliations qui vont avec, qu'est-ce qu'il est censé en dire d'après vous ?
Ça consistait en quoi ?
Il me parlait de réveil en pleine nuit pour aller dans la forêt. De privation de repas, de faire les serviteurs à toute heure, de tâches stupides et humiliantes. La deuxième année ne les laissait pas tranquilles. Il était épuisé.
Et Aïssa, comment nageait-il ?
Je comprends pas votre question. Pourquoi vous me posez cette question ? Hein ? Vous savez que pour entrer à Saint-Cyr, il faut savoir nager, non ?
Oui.
Alors pourquoi vous me posez cette question ?
Répondez, Madame Saïdi.
Non. Je veux savoir pourquoi il me pose cette question.
Voilà, la mère, hein, jouée par Lubna Azabal. Formidable, Lubna Azabal.
Immense actrice.
Toute de colère rentrée, très digne. Donc, qui répond à l'enquête de la gendarmerie, juste après la mort d'Aïssa, lors de ce rituel. Alors, on parle de bahutage, mais en fait, c'est du bizutage. Enfin, il y a un jeu sur les mots.
Il y a un jeu sur les mots parce que c'est une question en fait, juridique. Et que la définition juridique du bizutage et la définition sociale du bizutage sont deux choses un peu différentes. Et l'armée considère qu'il ne s'agit pas de bizutage parce que c'est quelque chose qui fait partie de leur cursus. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail juridique parce que je n'arrive pas à bien le maîtriser. Ça reste quelque chose d'étrange, mais là où il y a une phrase très intéressante de cette... Dans cette scène, c'est qu'elle dit la transmission de tradition, il aimait bien ça. Parce que la transmission de tradition, c'était de comprendre l'histoire de l'armée française. C'est-à-dire, quand vous allez sur les traces des poilus, vous comprenez quelque chose de l'héritage, de ceux qui ont combattu pour la liberté, la démocratie et française. Et il y a quelque chose dans le sens du devoir qu'on comprend, qui est universel. Se faire lever à 5 heures du matin pour nettoyer une statue sous la pluie, je vois pas ce que ça vous apprend.
Alors, sacré personnage, Rachid Ami, que ce personnage de Nadia, la mère, c'est le troisième pilier du film, en fait. Hein. C'est celle qui est partie avec ses enceintes, avec ses deux petits garçons sous le bras, qui a quitté l'Algérie pour la France, contre l'avis de son mari. C'est une femme qui a quand même transgressé, qui s'est battue pour les élever. Elle porte toutes les valeurs et toute la dignité aussi de la famille face à l'institution militaire.
Oui, et puis elle porte une autre chose en elle, et c'était l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est qu'elle détruit le cliché de la femme algérienne, maghrébine, ou qui vient d'un milieu populaire. Elle le détruit parce qu'elle est instruite, elle est élégante, elle est digne, et en même temps, c'est un être humain complet, c'est-à-dire elle a sa part de froideur, de monstruosité, et aussi de douleur et de douceur. Et tout ça, c'est vrai que quand on se retrouve avec une personne comme Lubna Azabal, c'est plus facile à faire, c'est plus facile à travailler. Et quelque part, je voulais juste montrer cette majorité silencieuse qu'on montre très peu, dont on ne parle jamais. Et voilà, c'était un peu un hommage aussi à ma mère qui ressemble à cette dame.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Un titre que l'on entend à la fin de Pour la France, c'est ce titre, c'est Pour ceux de Mafia Qu'un Fri.
Pas pour ceux qui chient dessus, qui savent même quand les plus gros ça marche dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, Mafia Qu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouches. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, j'en plus Chico sur le côté. Qui boite pas la frais avec un œil qui se bat en bruit. Toujours de frapper là en bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui savent même quand les plus gros ça marche dessus. On ne sait. sœurs qui sont les mères de demain. Wesh wesh cousin, m'a fait quelqu'un pour les carlouches, les harlouches, les manouches, genre galouches. Hardcore même quand ça galoche. Les gars sont ceux qui font des fous sur les murs, tomber à la cul. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, ton petit chico sur côté, qui boite pas la frais avec un mec qui se part en couille. Toujours son sang en brouille.
Dans l'une un big up au bled, dans l'autre un big up aux jeunes des cités HLM. C'est pour les mecs avec ou sans permis, des low-key dans le box, la weed dans le coffre et le 20 grammes de pops. Au charbon comme le jeune fraîche pour les flèches, 200% crevard, trop puissant, malin et rusé. Lève ton majeur bien haut si tu me sens venir. Samir et la draille et l'alcool risque de partir. C'est pour les meufs accompagnées, les charmantes, les stylées, épilées qui se jettent vers notre côté. Je manifeste la famille pour se l'attache. Pour les mecs de ma rue qui s'étendent à la tâche. C'est pour les gens Valjean, les gros barjons, les rageux. Avec les phares jaunes, Kiro, quand t'as ce que tu as de sanglier, pour un fusil qui peut te faire valser un sanglier. À ceux qui aiment ou ceux qui te sourient, qui te font sourire ou trembler, ceux qui te font rire jusqu'à t'en étrangler, les gros timbrés, ceux qui ont fait qu'elle, quelle qu'elle, qui sont sans fin de semaine, personne ne s'allume à croire comme qu'elle, pour survivre dans la galère qu'on assimile à leur ville, prendre la Ilia au profit, le Ria et le Sens et Milia, à ceux qui seront toujours là pour leur familia, à ceux qui kiffent la vraie fête, je te parle pas du milliard.
Sans armes, retenant mes larmes comme Kelly Joyce. Ça, ça te concerne pas, donc là tout de suite éteins ton poste. Ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film dont ton quartier serait le décor. Pour ceux qui ont bien connu et côtoyé l'inoubliable, ça fait partie de notre passé, de ces choses ineffaçables. Ceux qui très tôt ont accusé de mecs à part sur le bitume, de par leur attitude, ça c'est de la part de J-Bitume. Pour ceux qui s'y payent un loyer, mon bled vise d'être propriétaire. Je vais pas passer ma vie à jouer le sparring partner. Ce mais aussi celle qu'on le somme sur SSL. Pour ceux qui veulent des parts, en plus des parts à l'assassin. Pour les classes sociaux qui te font peur, qui font le beurre, toujours à l'heure exacte dans les transats. Fini sur un transat à Pattaya, gros dit que ça compte toujours la barre. Qui passe à la barre, pour l'anglaise, la taille qui pousse seule la barre. Pour les croyants, les vaillants, qu'on peut culture immature. Et vos riz au couscous, au bout de ceinture.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie du réalisateur Rachid Ami pour parler de Pour la France en salle mercredi prochain. Alors ce rap de Mafia Quin Free, on voit Karim Leclou qui joue le grand frère Ismaël et puis Shahin Boumedine qui joue Aïssa. Donc on les voit le chanter dans un taxi à Taïwan. C'est la scène de fin donc, du film.
On déplore trop le film là, attention.
Mais ce titre c'est important parce que c'est vraiment un titre où on les voit partager, c'est vraiment un titre de frères.
Ben, je pense que le film il fonctionne de manière très cyclique en fait. Il a plusieurs caisses de résonance et moi ce que j'ai essayé de faire c'est de construire, comme c'était un récit enlacé, de construire des vraies connexions émotionnelles et thématiques. Et c'est vrai que le film commence par une chanson qui s'appelle Commando d'Afrique, qui est une chanson institutionnelle, qui est une chanson militaire, qui est une chanson qui est faite en l'honneur des tirailleurs, des soldats d'Afrique qui ont débarqué sur les côtes de Provence. Et Aïssa chante ça au début du film. Et il termine le film avec Mafia Quin Free et Pour ceux, qui est en fait une chanson qui est un peu l'héritage de ces gens-là, de ces gens qui sont battus pour la France, qui sont nés ici. Ça, c'est leurs enfants, c'est la génération d'après qui a trouvé son hymne à elle. Et je trouvais que ça complétait l'identité des deux personnages. Et puis après, c'est un classique fantastique du rap français. C'est une chanson que mon frère et moi, on adorait. Et j'avais très envie aussi d'aider le film à un moment donné, quand il se termine, à sortir le spectateur de ce qu'il avait vécu. Je trouvais ça bien, voilà.
Et puis c'est les paroles, c'est un rap signifiant, en même temps l'image, ce qu'on voit à l'image, ça aussi c'est novateur, enfin je sais pas si c'est novateur, mais en tout cas ce sont ces deux enfants d'immigrés, ce sont ces deux banlieusards à Taïwan, ce sont ces deux visages de la France aussi, et ça on voit pas, on le voit rarement en fait.
On l'a jamais vu, je crois, surtout c'est-à-dire de retrouver ces gens, les gens de classe populaire et modeste au bout du monde en train de se définir en fait. Et on n'est jamais aussi français que quand on est à l'étranger. C'est-à-dire, c'est très bizarre. Moi, quand je suis au bout du monde, je suis français, c'est pas de question. Ici, on me dit, tu viens d'où ? Je dis, je viens de Pierrefitte ou de Saint-Ouen. On me dit, non, mais d'où ? D'où ? Je suis français, d'où français ? Ah, non, mais en Algérie. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que là-bas, on me dit, tu viens d'où ? Je dis, de Paris. On me dit, très bien. Et là, de voir ces jeunes gens à Taipei, dans une rue où le personnage d'Aïssa, interprété par Shahin Boumedine, en train de parler mandarin, ben on casse 30 ans, 35 ans de clichés. Et ça, c'était très important pour moi de donner une voix à cette majorité silencieuse. Et Et quand je dis majorité silencieuse, je mets aussi l'armée là-dedans, parce qu'on a l'autre versant, on a un personnage qui est interprété par Laurent Lafitte, qui s'appelle Général Caillard, et qui lui aussi casse beaucoup de clichés sur l'armée. Et ça me permettait d'avoir un film juste, parce que reflet de ce que j'avais vécu.
Alors Taipei, Rachid Ami, je me suis demandé si c'était juste un choix de cinéma, mais en fait, dans la vraie vie, votre frère Jalal, qui est à Sciences Po, fait son année, sa troisième année, vraiment à Taïwan. Et pour toute cette génération de jeunes étudiants, c'est aussi la promesse d'une mondialisation heureuse, c'est-à-dire devenir un citoyen du monde qui va leur permettre de sortir de ce duel France, Algérie, banlieusard, de sortir des stigmatisations en fait.
Bah, c'est ce que le film fait, en évitant le face-à-face entre la France et l'Algérie, en mettant Taïwan. Tout d'un coup, il casse aussi cette binarisation des relations à la fois sociales, mais aussi, on va dire, historique pour des gens qui ne sont pas concernés. Moi, j'ai pas vécu. J'ai vécu les années du fils, mais la guerre d'Algérie, pour moi, c'est quelque chose de lointain. C'est quelque chose qui a à voir avec peut-être ma mère, mon père, mais moi, j'ai pas de lien avec ça. Et je me sens citoyen du monde. Et Jalal, quand il va à Taipei, il fait partie de ce monde. En fait, c'est ça qui l'intéresse. Et je pense que générationnellement, j'espère. Je pense que la tension sociale, cette radicalisation des idéologies récentes, c'est une forme de résistance à une mondialisation qui est en marche, en fait. Où on est tous en train de devenir des citoyens du monde. Aujourd'hui, quand on parle de pollution, on est tous concernés. Quand on parle de guerre, on est tous concernés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et ce film, il est en train de défendre cette idée-là, qu'on est citoyens de ce monde.
Il y a aussi, vous parliez de binarisation, c'est intéressant la relation entre les deux frères. Donc Ismaël, joué par Karim Lekoulou, c'est un peu vous, sans être vraiment vous.
Heureusement, et je ne suis pas boulanger. Heureusement pour vous d'ailleurs que je ne sois pas boulanger, parce que ça aurait été terrible.
Mais les deux frères sont évidemment très différents. On a le sentiment presque que c'est le cadet, donc Aïssa, joué par Shaïn Boumedine, qui est le plus... Alors, je ne sais pas si c'est le plus protecteur, mais en tout cas le plus dans la règle. Alors, et l'aîné qui divague.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites. Je pense que ça a à voir avec en fait la position d'aîné dans une famille. C'est-à-dire quand on est l'aîné, on a une responsabilité envers sa famille, et donc on fait des sacrifices et on est jugé pour les sacrifices qu'on fait. Tandis que le cadet, lui, il est profondément égoïste. Il va au bout du monde, il fait ses trucs, il pense à personne, et tout d'un coup, on dit c'est l'exemple. Et c'est là que toute la complexité des relations humaines se cristallise. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai voulu faire. C'est un film très humain sur une fratrie compliquée, dans une famille compliquée, et qui est une famille juste normale, parce que toutes les familles ont leur complexité, elles ont toutes leurs difficultés. Et je pense à tous les frères aînés qui ont, comme moi, pris des responsabilités bien trop tôt, à toutes les sœurs aînées qui ont pris des responsabilités bien trop tôt. Je pense que vous savez de quoi je parle.
Surtout dans une famille où le père n'est pas présent.
Surtout dans une famille où un parent est absent, c'est-à-dire que ce soit un père ou une mère, de toute façon, on est condamné quand on est l'aîné à prendre une responsabilité qui ne devrait pas être la nôtre. Donc de toutes les manières, comme on n'est pas conçu pour prendre cette responsabilité, on ne fait que décevoir.
J'aimerais qu'on parle un peu à ce moment-là de l'entretien, du casting, parce que Karim Lekoulou, qui joue l'aîné, qui est un peu paumé en tout cas jusqu'à son séjour à Taipei, il a un mélange de douceur et de vulnérabilité, et après il va prendre des responsabilités pour se battre pour les funérailles, on y viendra plus tard. Shaïn Boumedine joue Aïssa, Lubna Zabal, vous avez aussi le réalisateur Lias Salem dans un...
Alors j'ai plein de gens dans ce film, j'ai eu la chance de travailler avec les acteurs dont je rêvais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à composer le casting de ce film, je voulais juste les meilleurs acteurs. Je voulais juste les acteurs qui étaient les meilleurs pour les rôles. Et j'ai eu la chance d'avoir un producteur fantastique qui m'a jamais dit « faut prendre quelqu'un de très célèbre, faut prendre quelqu'un de comme ci ou de comme ça ». Il m'a toujours dit « faut prendre le meilleur acteur pour le film ». Et c'est ce qu'on a fait tout le temps. Et donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs immenses. C'est-à-dire que ce soit aussi bien Karim Leclou, Shane Boumedine, Samir Ghesmi, Lubna Azabal, Laurent Lafitte, Vivian Tseng à Taïwan, qui est une très grande actrice, Liès Salem, Laurent Capelluto, je peux faire une longue liste. Et on a encore d'autres acteurs comme ça à Taïwan qui sont des grands acteurs aussi. Et surtout, j'ai eu la chance de travailler avec deux enfants fantastiques qui sont Liam et Naïl, qui, du haut de leur jeune âge, ont fait quelque chose que je croyais impossible à faire. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, l'endroit où j'ai pris le plus de plaisir, c'est dans le travail avec eux.
La direction d'acteur ? Parce que vous-même, à l'origine, vous avez commencé jeune, hein, enfin à 17 ans, je crois, c'est ça,
sous 16,
la
ans.
16 ans, sous la direction d'Abdelatif Kechiche, dans l'esquive.
Exactement, exactement, j'avais commencé avec Abdel à 16 ans, il m'avait dit une belle phrase, il m'a dit, si tu veux, parce que moi, je ne voulais pas devenir acteur, je voulais devenir stagiaire, je voulais apporter le café, et je voulais apprendre comment on fait des films. Et donc, je dis à Abdel, ouais, je suis stagiaire, j'amène le café, je porte ce que tu veux. Voilà. Et il me dit, non, mais si tu veux devenir réalisateur, il faut que tu sois acteur, parce que si t'es pas un peu acteur, tu comprendras pas les acteurs et tu seras jamais un bon réalisateur. Alors là, je me dis, très bien. Donc, je me retrouve à porter ce costume multicolore pour lequel je me fais encore taquiner, quand même.
D'Arlequin, c'est
ah
ça?
Bah oui, de ce costume d'Arlequin, il reste. Hein. J'ai mes acteurs, des fois, qui m'envoient juste le costume d'Arlequin, comme ça, sur mon téléphone. Je dis, c'est quoi ces bêtises? Et donc, ce moment-là, ça a été un moment fondateur parce que j'ai compris quelque chose qui est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, c'est que on ne parle pas aux acteurs de la même manière. Moi, je parle à chaque acteur de manière très différente. Je prends le temps de les connaître et je cherche un résultat avec eux. Et on le cherche ensemble, on s'autorise à se tromper. Moi, des fois, je peux avoir une très mauvaise idée et puis je dis, ah, c'est vraiment nul, on ne peut pas faire ça. Et inversement, ils peuvent avoir de très mauvaises idées aussi. On dit, c'est encore plus nul ou c'est encore moins nul. Mais on discute de à quel point c'est nul. Mais en fait, on se trompe tous les deux joyeusement. On n'a pas peur du ridicule et on cherche en fait cette vérité émotionnelle. Et c'est une quête. Et on est ensemble en train de chercher leur sincérité, leur vérité. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir des acteurs qui sont vrais.
Alors, on le disait, Rachid Ami, le film, effectivement, il y a entrelace trois moments. L'événement tragique, hein, donc ce bizutage. Il faut peut-être que, juste qu'on rappelle, parce que je ne sais pas si ça a été très, très clair pour les auditeurs, que Aïssa, votre frère Jalal, est mort une nuit dans l'eau glacée, en fait, lors d'un rituel organisé par les deuxièmes années de Saint-Cyr, en fait.
Exactement.
Il voulait reproduire quoi, le débarquement de Provence.
C'est l'ironie.
Donc, ils ont réveillé les premières années en pleine nuit. Hop, le sac sur le dos, on ne voit rien. On va dans l'eau glacée, on n'a pas pied. Et effectivement, beaucoup réchappent à la noyade de justesse.
Ouais. Bah, en réalité, cette nuit-là, ils étaient en train de faire juste un atelier où ils chantaient avant. Donc, ils devaient rentrer. C'est ce qui aurait dû se passer. Les élèves de deuxième année ont mis en place un atelier de débarquement de Provence. Et il n'y avait aucun débarquement parce qu'on envoyait des mecs à l'eau dans un étang où il fait très profond, de plus de 2,80 m, où il faisait 8 degrés. Et très rapidement, il y a des élèves qui sont pris de tétanie. Le froid les commence à les paralyser, ils n'arrivent plus à avancer dans l'eau. Donc ils bougent ceux qui sont derrière eux, qui eux, comme n'arrivent pas à avancer, ils commencent à avoir froid, ils commencent à couler. Et on a des gens qui coulent les uns derrière les autres. Ça, c'est le premier passage. On enlève les gamins de l'eau. Les deuxièmes années récupèrent à peu près entre 30 et 39 camarades dans l'eau. Ils s'arrêtent, ils discutent et ils veulent arrêter l'atelier pour certains. Et il y a un élève qui décide, contre la volonté de ses camarades, de continuer. Et il demande à ce que la deuxième compagnie entre à l'eau. Et dans cette deuxième compagnie, il y a mon petit frère Jalal qui ne sait pas de ce qui se passe, quoi. Il rentre dans l'eau et il se retrouve dans une eau à 8 degrés, très profonde, où il n'a pas pied. Et sauf qu'il peut, les gens commencent à se battre dans l'eau, à se pousser, à s'agripper. Et voilà, c'est tout ce que... C'est ce que je sais de cette nuit-là.
Sur un événement aussi tragique, j'ai noté que vraiment vous utilisez beaucoup les mots nuance, vérité, sincérité. Pour la France, Rachid Ami, vous avez vraiment voulu que ce soit le ton juste, pour ne pas tomber peut-être dans un côté binaire. Et vous parliez tout à l'heure du personnage de Laurent Lafitte, le général Caillard, qui est si important. Parce qu'il représente celui qui défend les valeurs de l'armée, alors que l'armée, l'institution École Saint-Cyr, elle voudrait avoir tendance à ne pas faire de vagues, pas faire de bruit, passer cet épisode désastreux sous silence.
Exactement. Mais parce que dans une institution est composée d'hommes et de femmes, et derrière l'uniforme, il y a des individus qui ont des valeurs morales qui sont différentes. Et c'était important de montrer quelqu'un comme ça, parce que moi j'ai rencontré quelqu'un comme ça dans l'armée, qui était le général Vindec à Saint-Cyr, qui était le commandant de l'école, et qui s'était battu pour Djalal, qui a été sanctionné d'ailleurs, de manière assez injuste, il me semble, et que la justice a tout de suite épargné, parce qu'il était clairement innocent, il n'avait pas de responsabilité là-dedans. Et pour moi, si vous voulez, il y a une chose que je refuse depuis très longtemps, c'est soit de tomber dans la victimisation, qui est une forme d'humiliation pour moi, soit tomber dans une situation où on serait récupéré, instrumentalisé, et je refuse ça aussi. Et donc, c'était très important, et aussi faire preuve de justesse, de nuance, à un moment où tout se radicalise, c'est important, parce que si nous, cinéastes, on n'arrive pas à faire surgir la complexité du monde dans nos films, c'est quoi la différence avec un mec sur Twitter qui s'énerve ? Il n'y en a aucune.
Je le disais, donc pour la France, on parle de l'événement tragique. On va aussi, donc on l'a beaucoup dit, à Taïwan. Et puis il y a la question du procès et la question des funérailles. C'est un enjeu décisif. À l'annonce du décès, on promet à la famille une cérémonie aux Invalides, une inhumation dans un cimetière militaire, mais ensuite à l'état-major de l'armée de terre, c'est la douche froide.
Madame Saïdi, je sais que cela ne vous consolera pas, mais même moi, demain, si je devais mourir en France, je n'aurais pas le droit aux Invalides. Les funérailles militaires aux Invalides concernent les soldats tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs en opération extérieure. Le décès du sous-lieutenant Saïdi ne s'inscrit pas dans cette réglementation. Nous pensons qu'une haie d'honneur faite par ses camarades au cimetière de Bobigny constituerait un bel hommage. C'est ce que nous vous proposons.
Non. Je ne veux pas qu'on enterre mon fils à Bobigny.
Mais alors, où, madame ?
Au cimetière militaire. Comme tous les soldats. Comme vous l'avez promis.
Moi, je n'ai rien promis. L'état-major a repris le dossier, Madame Saïdi, et je suis dorénavant votre seul interlocuteur.
Ils sont morts comment ? Les autres à Bobigny ?
Il y a des cas de figure différents les uns des autres.
Ouais. Et vous en avez beaucoup, des homicides involontaires ?
Mais...
L'enquête est en cours, hein. Rien ne peut...
On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort.
Bahutage, pas bizutage.
Et c'est quoi la différence ? Bahutage, ça donne le droit de tuer ?
Je crois que vos émotions obscurcissent votre jugement, jeune homme.
Mon jugement.
Maël. Maël. Viens avec moi. Là, on va faire un tour aussi.
Nous comprenons votre chagrin, madame Saïdi. Vraiment. Et nous ferons tout notre possible pour vous rendre cette épreuve le moins douloureuse. Mais il va falloir être raisonnable.
Qu'est-ce qui se joue autour des funérailles, Rachid Ami ?
Il y a une forme de reconnaissance qui se joue lors de ces funérailles. Il y a une forme de reconnaissance de responsabilité, quelque part, dans la mort d'Aïssa, mais aussi une forme de reconnaissance nationale de l'engagement d'Aïssa. Je pense que une armée qui dit, qui organise des funérailles dignes, dit « on est responsable, on prend nos, voilà, c'est notre faute aussi ». Et ça, c'était important. Je pense que c'est pour ça que la famille combat en premier lieu. Et en deuxième, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une reconnaissance nationale, c'est-à-dire pour le sacrifice qui est fait. Aujourd'hui, quand un soldat meurt en opération extérieure, en Afghanistan par exemple, il a le droit aux honneurs militaires. Mais là, c'était bizarre parce que c'est quelqu'un qui est mort pour la France sans avoir combattu et pourtant par la faute de ses camarades. Donc il y a une dimension de trahison dans cette mort. Et là, c'était important pour nous que la nation reconnaisse qu'il est français, qu'il est mort pour la France à cause de ses camarades.
Alors, toute la question du racisme est assez évacuée dans le film, même si elle est sous-jacente. On sent, à un moment donné, le plus jeune frère s'émeut en disant « mais finalement, c'est le seul officier arabe à avoir été tué, etc. » Et son grand frère lui dit « ne t'embarque pas là-dedans ».
Oui, parce que il faut faire. Voilà, moi j'ai une tendance à vraiment réfléchir à tous ces problèmes-là, parce que le mot racisme est un mot très fort, un mot qui a une valeur sémantique très lourde, très chargée, même historiquement et socialement en ce moment, et que je suis conscient que ce soir-là, n'importe qui aurait pu mourir lors de cet atelier tragique, et que voilà, ça a été Jalal, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et qu'il n'est pas mort parce qu'il était arabe, il est mort parce que c'était des deuxièmes années qui ont joué avec la vie de leurs camarades, et que voilà, mais ce soir-là, il n'est pas mort parce qu'il était arabe. Donc c'est très important pour moi de ne pas tomber là-dedans non plus. Le racisme, dans le film, je pense qu'il est évacué parce que, comme on a une tendance à facilement penser que dans cette institution militaire, il y en a, on se dit il est mort pour ça. Alors, maintenant, je vais dire des choses un peu différentes. Il y a du racisme dans l'armée, comme il y a du racisme partout dans la société. C'est la même chose. L'armée, c'est juste un microcosmos avec une vraie diversité d'opinions, de pensées et de courants. Et bien évidemment, il y a une frange de personnes qui est raciste. Maintenant, est-ce qu'il y en a un peu plus dans l'armée? Forcément. Parce qu'on connaît l'histoire des lycées militaires et comment ça fonctionne. Mais à Saint-Cyr, le jour où Jalal perd la vie, ce n'est pas la question. Et je ne veux pas que ça en devienne la question, parce que ça aurait été aujourd'hui rentrer dans un truc encore pire pour moi, qui aurait été de dire, on ne parle plus du Saint-Cyrien qu'il était, donc on le dissocie de son appartenance au corps militaire pour en faire juste un arabe.
Parce qu'une grande partie du film, quand même, Rachid Ami, c'est une dispute symbolique autour de la dépouille de ce garçon, du corps. Il est en habit militaire, il est dans une chambre funéraire. Et pendant plusieurs jours, il y a cette dispute, ces enjeux et ce combat pour la dignité et la reconnaissance.
Mais parce que je pense qu'il est là aujourd'hui, le combat. C'est-à-dire, c'est un truc qui est plus grand que lui. C'est-à-dire, il y a un combat aujourd'hui de reconnaissance. Des classes populaires, de classes d'immigrés qui sont là depuis très longtemps et qui sont français. Et tout d'un coup, il y a une cristallisation, je pense, dans cet événement qui dépasse cet événement, qui dépasse ce corps. Le corps, c'est nous. C'est nous, tous les immigrés de France, tous les gens qui viennent de milieux populaires. Et quand je dis immigrés, attention, hein, je mets les Portugais, les Italiens, je mets tout le monde. Et ça, c'est là où il y a un truc qui se cristallise par rapport à la nation. C'est-à-dire comment on traite ces gens-là, est-ce qu'on les reconnaît comme français ? Et ça, c'était important pour moi.
Alors, Aïssa, il était certes d'origine algérienne, brillant élève, mais il était aussi parlé mandarin, on l'a dit. Il était aussi musulman. Il y a cette magnifique scène aussi après l'hommage militaire, cette cérémonie religieuse musulmane où les mots « Allahu Akbar » résonnent comme des mots de paix. Alors qu'on les a si souvent ces derniers temps entendus comme des mots agressifs terroristes.
Oui, parce que je vais vous dire une chose qui m'a toujours beaucoup fait rire, et ça va peut-être vous choquer. À chaque fois qu'il y a un attentat, il y a tout de suite un truc qui se met en place en France, c'est qu'il faut que les musulmans de France sortent et disent qu'ils sont contre. Mais vous êtes fous, moi je flippe comme vous les gars. Moi je suis complètement flippé quand il y a un attentat, j'appelle mon frère, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, ma mère, j'ai une boule dans le ventre, j'ai même plus envie de sortir, j'ai la même peur, panique, parce qu'il y a quelque chose que tout le monde doit aujourd'hui commencer à identifier, c'est que les plus grandes victimes du terrorisme islamiste, c'est les musulmans d'abord. C'est quand on voit les pays ravagés par l'islamisme, c'est des pays où il y a beaucoup de musulmans qui chaque année perdent leur vie, voilà. Et donc, à un moment donné, j'aime bien l'idée de dire que l'islam, tel que moi je le vis, et d'ailleurs je l'exprime dans le film à certains moments, c'est une vraie religion de tolérance, c'est une religion qui accepte les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est ma religion à moi, c'est comme ça que j'ai grandi, que j'ai été éduqué. Vous parlez de cette scène de la mosquée, on va y revenir, mais il y a aussi une scène dans un temple à Taipei qui raconte cette acceptation de la foi de l'autre et ce geste spirituel à la fois universel et humain, même si on a une croyance religieuse différente. Et quand je fais cette scène à la mosquée de Paris, si vous voulez, je montre juste la vérité, c'est qu'elle s'est passée comme ça. Dans la vie, ça s'est passé de cette manière-là, dans cette même salle. Et donc, ça raconte une histoire très importante, c'est que aujourd'hui, quand vous retrouvez l'institution militaire, des gens qui viennent de milieux sociaux différents, des gens aux histoires d'immigration différentes, autour de ce cercueil à la mosquée de Paris, que vous avez un chant religieux, une vraie prière religieuse, et qu'Allahu Akbar, ça devient une résonance de paix. C'est parce que pour 90%, 99% des musulmans de France, c'est ça, leur islam. C'est ça la majorité silencieuse, c'est ça pour eux. Il y a 1% de personnes qui utilisent l'islam à des fins politiques et idéologiques. Et je vais citer Reza Aslan, qui a dit une très belle phrase un jour. « Quelle que soit votre religion, si vous êtes un homme agressif, votre religion sera agressive. » Voilà.
On parlait donc de changer les représentations. Ce film, voilà, effectivement, montre toute cette complexité, cette nuance. Je ne sais pas si on peut dresser un parallèle, mais quand on voit le succès phénoménal de Tirailleurs en salle, le film de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, plus d'un million de spectateurs, est-ce qu'on se dit, Rachid Ami, que voilà, les choses, elles changent? Les représentations, elles changent, c'est facteur d'espoir.
Bien sûr, moi quand je vois Tirailleurs marcher, trouver son public, ça me fait très plaisir. Je suis content parce que c'est une histoire importante qu'elle doit être racontée. Et en même temps, je me dis que c'est déjà très loin. Et que j'aimerais bien qu'aujourd'hui, sur des histoires contemporaines, on soit capable de faire... d'avoir la même ouverture d'esprit, la même curiosité à l'égard de ces couches populaires, vous voyez. Et pour moi, il y a un truc qui est aujourd'hui très difficile, parce que vous parlez d'assignation. L'assignation identitaire est devenue quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire que, par exemple, je vois des gens qui pensent que comme je suis d'origine algérienne, comme mon frère est mort à Saint-Cyr, et comme je fais un film sur lui, forcément, mon film doit être à charge contre l'armée, qui doit être... violent, qui doit être dans le vocabulaire de la violence, c'est-à-dire le combat, le ceci, le cela. Et c'est comme si on nous refusait, à un moment donné, à nous, un combat moral, philosophique, un combat sur la dignité, sur des valeurs d'honneur. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est comme si aussi on nous disait, bah, comme vous faites un film là-dessus, faut faire un film naturaliste, voilà, caméra à l'épaule, faites la vie. C'est pas ça, nous on est dans un geste artistique parce qu'on veut être reconnu comme des artistes. Et je parle de plein de gens qui sont en train de participer à ces films. Je parle aussi d'Omar Sy, c'est un artiste aussi, avant tout. Et c'est là qu'on a besoin aussi qu'on nous laisse cet espace, qu'on nous autorise à le prendre et qu'on nous accepte à cet endroit. Mmh. Et qu'on arrête de nous assigner à une chose qui serait que comme on vient de là, comme on fait ces histoires-là, ils doivent être comme ci ou comme ça.
Vous revendiquez donc la complexité, le droit à la complexité, à la nuance.
Je revendique le droit à la complexité, à la nuance.
Et au romanesque.
Et au romanesque, ouais. Exactement, vous avez compris. C'est ça, vous avez tout dit, je ne dis plus rien.
Et c'est un film romanesque que l'on vous encourage à voir. Je rappelle le titre de votre film, Rachid Ami, c'est Pour la France. Il sera en salle mercredi prochain. Can we get some more sun? On parle de l'actualité du cinéma dans quelques minutes, juste après cette nouveauté musicale, le choix de notre réalisatrice Fanny Renard, c'est Noga RS, End of the Road. For the challenge to show I got me some mileage. I bought a car and a cottage. I got some sand in my baggage. Got a list in my bucket. Squeeze the sponge, drop the pocket. I fit in any socket. Close the door, I'm a knock it. I got my ticket, I'm a flea. Sell it overseas. I just blink and get a fee. What ya think of me? But I burn in the sun, I never miss one shot. I'm sick as a gun, I got more toe friends. I'm dead as they come, like, hey, I'm on the way. I left my body in the mattress by the San Francisco Bay. No, there's a cop named Mordecai behind my pirate in Mercedes. When we crash, I hit the ER. This is a thriller, I did it for the PR. I did it for the VR. I didn't know when there's a dynamo back in the back of the fridge. I go pack it up, my triple attack and battery as in my sex in the cabin. Menagerie cracking, my doggies run packs. I just sell them to bag it up, bag it up, bag it up. I don't
really, really happens at the end of the road.
C'était Noga RS, End of the Road. C'est maintenant l'heure du journal du cinéma avec vous, Isabelle. L'Afrique à l'honneur comme lieu de production cinématographique et audiovisuelle.
Oui, et notamment l'Afrique de l'Ouest qui attire de plus en plus de tournages de séries ou de films. Le géant américain Netflix prend clairement ses marques en Afrique de l'Ouest francophone. La production audiovisuelle explose notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire avec des budgets qui sont en augmentation et des formats qui évoluent avec de plus en plus de séries au format international de 52 minutes.
Et au-delà des séries, l'Afrique francophone produit peu de téléfilms, assez peu de films de cinéma, mais la production de comédies populaires pourrait s'accélérer.
Avec notamment la réapparition d'un réseau de salles de cinéma, comme à Dakar et Abidjan, et avec plus de 56 600 entrées payantes dans 12 pays, le film « Les trois lascars » du Burkinabé Boubacar Diallo, distribué par Canal+, est devenu l'an dernier le plus grand succès en salle de ce début du XXIe siècle en Afrique francophone. Alors, les chiffres d'entrée ne sont pourtant pas extraordinaires, ils sont même plutôt bas comparés au succès des années 90, où Buddyham de Gaston Caboret atteignait 500 000 entrées, par exemple en 97. C'était avant que le cinéma, autrefois très populaire, ne connaisse un déclin spectaculaire dans les années 2000, marqué par la disparition de presque toutes les salles d'Afrique francophone. Une nouvelle génération émerge aujourd'hui et pourrait donc changer les choses. L'école Courtrajmé a ouvert ses portes à Dakar l'an dernier pour former au métier de scénariste et réalisateur et répondre à la demande du secteur.
Au Nigeria, le cinéma indépendant cherche sa voie.
Nollywood, la très puissante industrie du Nigeria qui inonde le marché africain de comédies romantiques et de blockbusters mélodramatiques, tout en générant des centaines de millions d'euros de bénéfices, a eu tendance à étouffer le cinéma indépendant. À tel point qu'un collectif, Surreal 16, s'est créé pour encourager un nouveau type de cinéma qui pourrait parler du monde tel qu'il est et non pas à travers une vision religieuse ou stéréotypée. Les lieux alternatifs de projection se multiplient au Nigeria et ces dernières années, plusieurs courts et longs métrages ont été programmés dans des festivals de renommée internationaux. Cette année, Mami Wata de Sidje Obasi, qui met à l'honneur la déesse ouest-africaine de la mer, a été programmée au Festival californien de Sundance et au FESPACO, qui aura lieu dans quelques semaines. Un film qualifié de hors norme, tourné en noir et blanc, pour donner une autre image du cinéma nigérian.
Alors le cinéma qui permet de redynamiser certains pays, c'est le cas de l'Irlande du Nord.
Et oui, l'Irlande du Nord, autrefois connue pour ses chantiers de construction navale mondiale, puisque c'est à Belfast qu'a été construit le célèbre Titanic, sera bientôt plus connue pour avoir été le décor de la série Game of Thrones, une série qui s'est terminée en 2019 et qui continue d'attirer des foules de touristes sur place. Désormais, Titanic Studios et Harbour Studios sont parmi les plus grands d'Europe. Netflix y poursuit ses tournages. D'autres grosses productions comme Donjons et Dragons ou la série Blade Runner 2099 sont en cours de production. L'université de Belfast forme déjà des centaines d'étudiants afin qu'ils soient à la pointe de la technologie, notamment dans la 3D.
Des bons chiffres pour terminer. Le nouveau film indien Pathaan a battu tous les records au box-office indien à sa sortie la semaine dernière, galvanisant l'industrie de Bollywood, marquée, on le sait, par une récente série de résultats médiocres.
Oui, le film Pathaan, avec la superstar Shah Rukh Khan, a enregistré les meilleures recettes jamais engrangées par un film indie. Le cinéma de Bollywood en langue indie connaît des difficultés depuis la réouverture post-pandémie des salles obscures. La tendance est peut-être en train de s'inverser. Et je terminerai avec une bonne nouvelle française. Le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, a réalisé le meilleur démarrage d'un film français depuis 15 ans. mercredi, malgré les critiques plutôt mauvaises. Le réalisateur de cette super production, Guillaume Canet, qui joue aussi le rôle d'Astérix, a posté sur Instagram une capture d'écran qui a indiqué cette information avec le mot « merci ».
On termine cette émission en Suède où a eu lieu une expérience inédite samedi dernier. Une expérience pour répondre à ces questions. Comment faire revenir le public dans les salles de cinéma? Comment le rendre moins passif devant un film? Alors voilà le genre de questions auxquelles le réalisateur suédois Ruben Östlund, deux fois vainqueur de la Palme d'Or, a essayé de répondre pendant le festival du film à Göteborg, juste avant la projection de son dernier film primé à Cannes l'an dernier, donc la comédie Sans filtre. Il s'est mué en chauffeur de salle, une séance interactive à laquelle a participé notre correspondante en Suède, Carlotta Morteo.
C'est un peu une conférence sur l'avenir du cinéma façon stand-up.
Je veux qu'on parle de la culture cinématographique, du comportement des spectateurs suédois. Je veux qu'on fasse du cinéma un espace plus vivant.
Ruben Östlund interpelle avec humour les spectateurs sur la base d'un questionnaire qu'il leur a fait remplir.
Lina Liv Reinhardt, 40 ans. Est-ce que vous êtes là ?
Oui.
À la question « Êtes-vous heureuse ?» Le plus souvent, oui. Quand je ne veux pas divorcer parce que mon mari est aquariste. Mais c'est quoi un aquariste ?
Un collectionneur d'aquarium. Que faites-vous pendant votre temps libre ? Quand est-ce que vous avez pleuré pour la dernière fois ? Et est-il autorisé de crier dans une salle de cinéma, de bavarder, de s'embrasser, de rire aux éclats ?
Je suis cinéaste parce que je crois que le cinéma offre une vraie possibilité de changer notre façon de voir le monde. Vous m'avez donné de nombreux exemples de films qui vous ont fait changer de comportement. Je pense que le public doit jouer un rôle plus important pendant la projection. Il doit être plus impliqué.
Objectif, décoincer un public jugé trop timide et à l'entracte, les inciter à discuter.
Ici, en Suède, on est toujours dans la mesure, équilibré, on ne rit pas trop fort, il ne faut pas pleurer. Quand j'ai vu le film la première fois, les gens ont rigolé, oui, mais pas comme là. C'est comme s'ils nous avaient autorisé à le faire.
Ça paraît évident, mais le cinéma est un lieu public. Tu peux te faire interpeller par la personne assise à côté de toi, alors que quand tu es tout seul, tu n'as pas trop besoin de réfléchir. On devrait être plus sociable, en fait.
J'ai demandé à une fille ce qu'elle avait pensé du film. Jamais je n'aurais fait ça avant, parler à une inconnue. On a eu une excellente conversation. C'est aussi ce que je vais retenir de cette expérience, le contact.
Ruben Östlund milite pour que le cinéma devienne un événement et il prend la France en exemple.
J'ai été invité dans un petit cinéma à Montreuil qui organise chaque semaine des rencontres avec des réalisateurs. C'est super et c'est impulsé par les subventions. Je pense que c'est grâce à cet accompagnement dans les salles que mon film a été vu par 500 000 personnes en France, contre seulement 150 000 en Suède.
Répandez la nouvelle, conclut le réalisateur suédois. Nous allons réinventer une nouvelle manière d'être au cinéma.
C'était un reportage de notre correspondante en Suède, Carlotta Morteo. Ainsi s'achèvent tous les cinémas du monde. Au micro, Isabelle Chenu
et Sophie Torlotin. À la réalisation de cette émission, Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie d'une philosophe, une fois n'est pas coutume, Sandra Laugier, qui publie les séries Laboratoire d'éveil politique aux éditions du CNRS. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI.